toujours à l'écoute de Radio France Internationale et vous avez bien raison, il est 15h ici à Paris, 13h temps universel.
RFI Midi, Stéphane Genest.
Dernière partie de RFI Midi, bienvenue si vous nous rejoignez pour cette demi-heure consacrée à l'actualité d'Haïti et du continent américain. Avec un dossier spécial dans cette édition, on est au Venezuela, où l'opposition qui revendique la victoire à la présidentielle du 28 juillet dernier manifeste ce mercredi contre Nicolas Maduro. Un mois jour pour jour, après cette réélection, le Venezuela et le monde refusent la fraude de Maduro et son régime. Voilà ce qu'écrit l'opposition sur les réseaux sociaux. Vous entendrez des soutiens à Nicolas Maduro, qui s'interroge tout de même. Et nous analyserons ce mois de tension au Venezuela avec notre invité. Et puis l'actualité des Outre-mer, on ira en Guyane. Un mois après l'incendie qui a totalement détruit le squat du Mont Baduel, les services de la mairie de Cayenne et de la collectivité territoriale de Guyane se sont rendus hier sur les lieux du sinistre. Benoît Ferrand.
L'occasion pour la maire de Cayenne, Sandra Trochimara, et le président de la CTG de s'interroger sur le relogement des quelques personnes qui habitent encore sur le site de la favela. Nous entendrons tout à l'heure le président de la CTG.
A tout à l'heure, Benoît Ferrand. On vous appelle dans 20 minutes. Et d'abord le journal avec Gilles Moreau. Bonjour Gilles.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Et ça y est, Gilles, c'est le jour J pour les Jeux Paralympiques de Paris 2024.
Oui, cette 17e édition, la première à se tenir en France, va réunir quelques 4400 athlètes dans une vingtaine de sports. Jusqu'au 8 septembre, le grand public va apprendre à mieux connaître ces sportifs qui vivront ce soir un premier moment de fête avec la cérémonie d'ouverture. Rendez-vous est pris dès 18h, temps universel sur les Champs-Élysées et la place de la Concorde. Le spectacle est imaginé comme pour les Jeux Olympiques, par le metteur en scène Thomas Joly. Il aura pour fil directeur l'inclusion des personnes en situation de handicap. Donc ce soir, le top départ RFI, diffuseur officiel, en profite aujourd'hui pour vous présenter des portraits de participants. 120 millions de Japonais auront les yeux rivés vers Tokito Oda, le jeune prodige mondial de tennis fauteuil. Correspondance à Tokyo de Bruno Duval.
Tokito Oda rêvait de devenir footballeur professionnel, mais une tumeur maligne osseuse à l'âge de 9 ans décida autrement. Depuis, il porte une prothèse de la hanche. S'il s'est tourné vers le tennis fauteuil, c'est en raison de son admiration pour son compatriote Shingo Kunieda, qui fut numéro 1 mondial de cette discipline pendant 10 ans et médaillé d'or à Pékin, Londres et Tokyo. La carrière de Tokito Oda débute encore plus brillamment que celle de son aîné. Cela lui vaut l'admiration de ces deux jeunes pratiquantes de tennis fauteuil.
Kunieda et lui sont vraiment mes modèles et une source d'inspiration constante dans mon activité sportive.
On a le même âge et pourtant je le considère comme mon aîné, tant sa rage de vaincre m'impressionne. Comme lui, j'essaye de ne jamais baisser les bras.
Au-delà des personnes en situation de handicap, les Japonais dans leur ensemble suivent avec passion le parcours éblouissant du jeune homme. À l'image de ces Tokyo Heat.
Il se bat comme un fou sur toutes les balles. Il a un côté si japonais au fond. Surtout ne jamais renoncer, toujours donner le meilleur de soi.
18 ans seulement et déjà un tel talent, un tel palmarès. Ce jeune homme est juste fantastique.
Si Tokito Oda remporte la médaille d'or à Paris, il deviendra le plus jeune champion paralympique de tous les temps dans cette discipline. Bruno Duval, Tokyo. RFI.
Les Jeux Paralympiques d'été de Paris 2024 à suivre dès la cérémonie d'ouverture ce soir sur RFI. Au moins 10 Palestiniens tués dans une opération de l'armée israélienne. L'attaque de grande envergure visait ce matin plusieurs camps de réfugiés de Cisjordanie occupés à Jenin, à Toubas et à Toulkarem. Et ce raid n'est sans doute pas fini. Israël a prévenu qu'il pourrait durer plusieurs jours.
RFI 9h04 à Washington et ce coup de tonnerre aux États-Unis à l'approche de l'élection présidentielle.
Oui, le procureur spécial Jack Smith vient de publier un nouvel acte d'accusation contre Donald Trump. L'ancien président est désormais candidat et toujours accusé de tentative illicite d'inverser les résultats de la présidentielle de 2020. Mais cette nouvelle version de l'acte d'accusation, Christophe Paget, prend en compte une récente décision de la Cour suprême.
Oui, dans son arrêt du 1er juillet, la Cour suprême a estimé qu'un président américain a droit à une présomption d'immunité pour ses actes officiels. Jack Smith a donc retiré de l'acte d'accusation les conversations tenues au moment des faits par le président Trump avec des responsables de l'exécutif, en particulier avec le ministre de la Justice. Et il tente de présenter le Trump de 2020, davantage comme un candidat que comme un président. Cet acte d'accusation révisé devrait avoir des conséquences sur la campagne présidentielle actuelle. Les Républicains ont déjà réagi en accusant Joe Biden d'utiliser le ministère de la Justice pour handicaper la candidature de Donald Trump. Une accusation que l'on n'entendait plus guère depuis le départ du président Joe Biden de la campagne démocrate et son remplacement par Kamala Harris, qui occupait toute la place dans les médias. Il reste d'ailleurs à voir comment la campagne démocrate va gérer ce retour des affaires judiciaires du milliardaire au premier plan. Jusqu'ici, contrairement à Joe Biden, qui insistait sur le danger pour la démocratie que représenterait un Donald Trump président, Kamala Harris a plutôt mis l'accent sur le combat pour la liberté et sur sa différence d'âge avec le républicain. Son équipe pourrait aussi craindre, selon CNN, que certains électeurs indécis considèrent qu'un nouvel acte d'accusation visant le candidat républicain soit excessif.
Christophe Paget en direct dans ce journal, merci à vous.
Retour sur le sol européen, Gilles Moreau, puisque Keir Starmer, le Premier ministre britannique, est aujourd'hui à Berlin.
Où il a été reçu ce matin par le chancelier allemand Olaf Scholz. Deux mois après son arrivée au pouvoir, le dirigeant travailliste compte améliorer les relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, des relations mises à mal par le Brexit. Il a signé un nouveau traité bilatéral avec son homologue. Jusqu'où peut aller ce rapprochement ? Question posée à un spécialiste du Royaume-Uni, Aurélien Antoine, professeur à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne.
Keir Starmer a bien précisé qu'il ne s'agissait pas de revenir par, j'allais dire, la marge à une situation anté-Brexit, c'est-à-dire avant le Brexit. Ce traité est une étape importante d'un point de vue diplomatique, politique, volontarisme affiché, mais il ne s'agit absolument pas d'une réintégration dans l'Union européenne, puisqu'il est exclu d'intégrer un marché commun. Donc ce sont forcément des accords qui restent quand même, notamment du point de vue du commerce, limités dans leur étendue, dans leur portée. En revanche, on peut envisager un rapprochement plus fort par rapport aux périodes des gouvernements conservateurs, du point de vue de la défense, et puis peut-être des solutions en matière migratoire qui manquaient ces derniers temps.
C'était Aurélien Antoine, fondateur de l'Observatoire du Brexit avec Julien Chavanne.
La garde à vue du patron de Telegram arrêté en France ce samedi soir s'est achevée il y a quelques minutes.
Oui, il a été transféré en début d'après-midi au palais de justice de Paris en vue d'une éventuelle inculpation. Son arrestation a suscité de nombreuses réactions dans le monde. Elle a aussi déclenché une campagne de désinformation contre les intérêts commerciaux de la France aux Émirats Arabes Unis. En effet, Pavel Durov a la nationalité émirienne et le siège social de Telegram se trouve à Dubaï. Actuellement, une infox circule sur les réseaux sociaux. Allons croire, le contrat des avions de combat Rafale aux Émirats Arabes Unis a été suspendu à cause de cette affaire. Olivier Four.
L'infox s'appuie sur un faux reportage reprenant le logo de la chaîne qatarienne Al Jazeera, très suivie dans le monde arabe. Un texte apposé à des images d'archives annonce le gel du contrat pour l'achat de 80 Rafales par les Émirats, ce qui représenterait un manque à gagner de l'ordre de 16 milliards d'euros pour l'industrie française. Vérification faite, Al Jazeera n'a jamais diffusé ce reportage et aucun canal officiel ou média considéré comme fiable n'évoque cette mesure. En revanche, d'après nos recherches, le faux reportage apparaît pour la première fois ce mardi, en fin de journée, sur des chaînes Telegram russophones, puis sur le site d'un obscur média africain en ligne. En quelques heures, l'infox est largement relayée sur les réseaux sociaux, particulièrement sur X, où elle a passé la barre des 8 millions de vues. Certains médias du Golfe la reprennent à leur compte, sans vérification. En France, Dassault Aviation ne fait aucun commentaire, mais la forme du faux reportage et le schéma de diffusion rappellent fortement d'autres infox détectés ces derniers mois et destinés à alimenter la propagande anti-occidentale du Kremlin.
Olivier Four de la cellule InfoVérif de la rédaction. Enfin, puissant typhon au Japon, 3 personnes sont toujours portées disparues à la suite d'un glissement de terrain. Les autorités ont prévenu que ce typhon qui s'approche de la grande île méridionale de Kyushu allait provoquer des intempéries, je cite, d'une rare violence.
C'était le journal avec Gilles Moreau. Merci beaucoup Gilles. On vous retrouve tout à l'heure pour un prochain point complet d'information. Il est 15h09 à Paris, 9h09 à Caracas.
RFI Midi. L'actualité d'Haïti et des Amériques.
Et on consacre une large partie de ce journal d'Haïti et des Amériques à la situation au Venezuela. Puisqu'en ce mercredi 28 août, voilà un mois que l'élection présidentielle s'est tenue et la polémique continue autour des résultats du scrutin, à savoir la réélection de Nicolas Maduro à la tête du pays. La victoire de Nicolas Maduro, qui est mise en doute par l'opposition, elle affirme que son candidat, Edmundo González Urrutia, a remporté le scrutin. Mobilisation qui continue, des rassemblements sont prévus dans tout le pays, aujourd'hui, par les opposants. Mais alors, qu'en pensent les partisans de Nicolas Maduro, qui malgré tout sont plusieurs millions ? Nous allons à la rencontre de ceux qui croient encore au chavisme, l'idéologie du président héritée de son prédécesseur. Ils sont au micro RFI de notre correspondante à Caracas, Alice Campagnol.
Selon les résultats de l'opposition, ils ne seraient plus si nombreux à soutenir l'actuel président au Venezuela, car Edmundo González aurait gagné le scrutin du 28 juillet avec environ 70% des suffrages. Mais malgré tout, ce que l'on appelle les chavistes, du nom de l'ancien chef d'État Hugo Chavez, représentent au minimum 30% de la population vénézuélienne. Et ce n'est pas rien. Orlando Padrón fait partie de ceux-là. L'ingénieur de 54 ans est un militant convaincu depuis plus de 30 ans. Il fait partie d'un colectivo, une milice pro-gouvernement. Elles sont considérées comme le bras armé des autorités dans les manifestations notamment et font la loi dans les quartiers populaires. Pour lui, la colère de la population vénézuélienne est le fait de ses dirigeants mal intentionnés.
Pourquoi il y a un mécontentement de la part de l'opposition ? À cause du discours de leurs dirigeants, ce sont eux qui créent le problème. Si seulement ils étaient de bonne foi et qu'ils n'avaient pas l'intention de mettre le feu au pays, de le diviser, s'ils étaient capables d'accepter leur défaite, mais non, rien de tout ça. Ils sont radicaux et comme ils refusent notre révolution socialiste, pour eux, c'est mieux de créer de la division dans la population.
Selon Orlando, le gouvernement doit maintenir sa ligne dur et ne pas plier face à la mobilisation de l'opposition qui a des comptes à rendre.
La victoire, c'est un sacré boulot. Il faut qu'on se mette au travail, car évidemment, nous l'avons obtenue cette victoire. C'est entériné maintenant. Donc l'opposition, qui dit le contraire, doit assumer ses responsabilités. Un point, c'est tout. Le gouvernement doit prendre des mesures contre ce discours. Et attention, ce n'est pas de la persécution, c'est pour améliorer nos structures gouvernementales.
Mais tous les chavistes ne sont plus aussi convaincus qu'Orlando. L'électorat de Maduro est varié, composé de fonctionnaires, de militants historiques qui soutenaient Chavez, d'entrepreneurs qui font affaire avec le gouvernement, d'habitants des quartiers populaires impliqués dans leur communauté. C'est justement le cas de Rafael, qui a vu des changements ces dernières années.
Parfois, on voit que la balance penche plutôt vers le socialiste qui a de l'argent, qui ne mène pas du tout la même vie que celui à qui Chavez a demandé de mettre un genou à terre par fidélité. Ceux qui votent les lois ne mettent pas ce genou à terre. Ce ne sont pas non plus ceux qui nous applaudissent en nous disant que nous sommes des guerriers ou je ne sais quoi. Et il y a des zones populaires qui ont soutenu Nicolas Maduro et le chavisme pendant 25 ans. Et cette fois-ci, ils ont dit « c'est fini ». Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il a perdu.
Et Rafael, qui pourtant croit en la révolution socialiste, s'est mis à douter.
Si l'opposition dit qu'elle a gagné, alors il faut contrôler et expliquer ce qui s'est passé. Moi, j'attends encore, j'attends des éclaircissements du Conseil national électoral. Mais le temps passe et il semblerait qu'il ne va rien y avoir du tout, qu'on n'expliquera pas ce qu'il s'est passé avec l'élection et avec les votes.
S'ils sont encore plusieurs millions derrière le président Nicolas Maduro, il semblerait que sa popularité soit plus basse que jamais. Chaque jour, le chef de l'État s'isole un peu plus dans son palais de Miraflores. Alice Campagnol, Caracas, RFI.
On poursuit notre décryptage de cette situation politique au Venezuela avec Yoleti Bracho, maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université d'Avignon. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste du Venezuela. Vous avez beaucoup travaillé sur les rapports entre les organisations des quartiers populaires et l'État, issus de la révolution bolivarienne. Alors, on l'a entendu dans ce reportage, Yoleti Bracho, les chavistes sont toujours aussi peu nombreux, aussi nombreux finalement, comme on a pu l'entendre dans le dossier au Venezuela.
En fait, je pense qu'avant tout, il faut savoir que le chavisme plus qu'un espace homogène, c'est plutôt un espace extrêmement hétérogène. D'ailleurs, je préfère parler des chavismes au pluriel, et qu'il me semble qu'on l'entend en fait dans le reportage, quand on voit une personne qui clairement soutient le gouvernement Maduro directement et sans doute, et une autre personne qui se réunit que chaviste, mais qui au contraire émet des doutes par rapport à l'élection, qui se demande finalement ce qui s'est passé, et qui par ailleurs met en doute le fait que le Conseil national électoral finisse par donner les résultats et finisse par expliquer finalement ce qui s'est passé. Et ça, c'est caractéristique en fait aujourd'hui au Venezuela, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui se réunissent du chavisme et pourtant s'opposent au gouvernement, comme il y a des personnes en fait qui, puisque chaviste, en fait, en gros, du coup, ils continuent à soutenir.
Et justement, à la lumière de ce que vous venez de dire, qui soutient encore Nicolas Maduro ?
En fait, on voit en fait à nouveau l'hétérogénéité d'acteurs. Il me semble très important de voir dans les soutiens ce qu'on a appelé la bourgeoisie, donc cette nouvelle bourgeoisie qui est née en fait en alliance en fait avec ce gouvernement par le soutien en fait de ce gouvernement au business, aux investissements étrangers qui sont avec beaucoup de en détriment finalement à nombreuses reprises de droits de travail au Venezuela, en passant outre en fait aussi la souveraineté de territoire, etc. Donc on a ces secteurs-là. On a aussi bien évidemment des secteurs populaires qui sont toujours en soutien du chavisme, et on le voit dans certaines organisations des comuneros et des communes, comme on appelle du coup ces acteurs, en fait, ces organisations de travail territorial. On a aussi effectivement une partie de la population qui travaille encore pour les services publics, en fait pour l'État, bon, pour des salaires dérisoires, mais en fait, dans ces espaces-là, on peut imaginer qu'il y a effectivement des personnes qui soutiennent encore ce projet. 30% de la population, ça reste effectivement une partie importante de la population.
Les militaires aussi soutiennent encore Nicolas Maduro. Du moins, Nicolas Maduro peut encore compter sur les militaires ?
Oui, ça c'est certain, et entre autres parce que finalement les militaires, les forces armées, ou en tout cas les cadres des forces armées, font partie de ces nouveaux polybourgeois. C'est-à-dire que finalement Nicolas Maduro a introduit en fait les forces armées et ses cadres notamment donc dans le système économique vénézuélien très très concentré et très élitiste. Les a introduits du coup dans l'économie pétrolière, mais aussi dans l'économie d'importation. Et dans ce sens-là, en fait, on sait très bien que l'armée a des intérêts économiques extrêmement relié aux intérêts du gouvernement Maduro.
Violeti Bracho, l'ancien vice-président vénézuélien Diosdado Cabello, considéré comme un dur, hein, nommé ministre de l'Intérieur hier lors d'un remaniement annoncé par Nicolas Maduro. Quel signal envoie le chef de l'État vénézuélien ?
Justement, c'est un signal déjà à l'aile, on va dire, proche de l'armée de ce chavisme au gouvernement, puisque Diosdado Cabello est justement, disons, la figure plus proche de l'armée de ce qu'est Maduro. Maduro est représenté d'une certaine manière la figure civile en fait au moment où Chavez est mort, et Diosdado Cabello représentait cette figure militaire. Mais l'autre chose importante, et c'est là où en fait des craintes commencent à exister, c'est que Diosdado Cabello représente aussi du coup comme un appel ou un soutien finalement à la continuité des politiques répressives qu'on vient de voir à la suite de l'élection. Cabello, c'est la personne qui a les positions les plus radicales en termes discursifs, qui a constamment, du coup, il a une émission de télé dans laquelle il nomme des personnes spécifiquement, qu'il appelle à être emprisonné, qu'il appelle à être jugé pour terrorisme, etc., etc. Et on voit que son introduction dans le ministère de l'Intérieur lui donnera, du coup, tous les pouvoirs de l'État nécessaires pour construire et continuer à faire cette répression.
Nicolas Maduro a annoncé la tenue d'élections d'ici à l'année prochaine pour élire ou du moins renouveler l'Assemblée, les gouverneurs, les maires. Mais il menace d'interdiction de se présenter celles et ceux qui ne reconnaissent pas sa réélection ni les pouvoirs de l'État. Comment on peut interpréter cette annonce d'élection l'année prochaine en pleine crise ?
C'est toute la question de ces passages en force, en fait, et finalement de cette négation démocratique. En fait, il est très difficile d'imaginer participer à des prochaines élections quand on ne soutient pas Maduro, quand on souhaite de manière ou autre se poser à Maduro, alors qu'on vient de voir à la suite du 28 juillet, plus de 2000 personnes mises emprisonnées, entre autres beaucoup d'assesseurs en fait, des bureaux de vote qui eux-mêmes en fait, ont été poursuivis, en fait, ils ont été cherchés dans leur quartier, dans leur bâtiment, etc., pour les emprisonner, pour éviter qu'ils racontent, en fait, qu'ils mettent en lumière finalement ce qui s'est passé le jour de l'élection. En fait, il me semble qu'on peut analyser ça comme un moyen de ratifier ce tournant autoritaire et le stabiliser institutionnellement.
Et l'opposition annonce aujourd'hui une grande manifestation, un mois jour pour jour après le scrutin présidentiel. C'est une manière finalement de continuer à se faire entendre, de continuer à exister ?
Sans doute. Après, d'une part, l'activité répressive a été telle en fait que il me semble qu'on peut, c'est évident que ceci a des conséquences sur la capacité des Vénézuéliens à se mobiliser, que ce soit au Venezuela ou à l'étranger, puisqu'il y a aussi des menaces à des personnes connues à l'étranger, familles d'un pays, etc. Et l'autre chose, c'est que finalement, en fait, ce qu'on voit par rapport aux mobilisations, c'est que tout de suite après l'élection, il y a eu des mobilisations populaires d'une grande taille. Mais finalement, l'opposition traditionnelle au Venezuela, qui est historiquement relativement déconnectée de ses classes populaires, a du mal finalement justement à accompagner.
Yoriti Bracho, on a du mal à vous joindre. La connexion est de plus en plus compliquée. On va vous rappeler. Je rappelle que vous êtes notre invité sur RFI dans ce journal d'Haïti et des Amériques, puisqu'on consacre une large partie de ce journal à ce premier anniversaire, ce premier mois du scrutin présidentiel au Venezuela, scrutin qui a vu la victoire du moins officielle annoncée par la présidence de Nicolas Maduro. Et on y revient avec vous, Yoriti Bracho, pardon, vous êtes avec nous puisque on évoquait ces manifestations dans les rues ce mercredi pour ce premier anniversaire, ce premier mois de ce scrutin. On a l'impression finalement que l'opposition n'a plus de moyens légaux ou constitutionnels pour contester les résultats, que la situation est bloquée et donc que ça se passe maintenant dans les rues.
En fait, et justement, l'inquiétude, c'est que les rues, de fait de la répression, mais aussi de fait de manque, en fait, finalement, de connexion entre l'opposition traditionnelle au Venezuela et finalement les classes populaires et les secteurs finalement mobilisés tout de suite après l'élection. Le 29, on a vu des révoltes populaires extrêmement importantes, et le manque de lien entre les uns et les autres font qu'on peut imaginer que ces mobilisations-là n'auront pas finalement la force nécessaire à faire plier, ou plutôt, c'est pas tant plier le gouvernement, mais que faire accepter en fin de compte les votes qui ont été émis le 28. Et ça, c'est ce qui veut dire du coup que les discussions qu'on peut avoir là aujourd'hui sur l'idée d'espérer que le gouvernement respecte en fait les résultats de cette élection sont difficiles finalement à avoir, parce que les outils à la fois en termes de mobilisation mais aussi les outils institutionnels se font de moins en moins accessibles.
Et oui, parce que pour autant l'opposition affirme disposer de preuves d'irrégularité du scrutin du 28 juillet dernier, notamment l'un des recteurs du CNE, hein, du Conseil National Électoral. Il a d'ailleurs publié une lettre sur les réseaux sociaux. Il met en doute ces résultats annoncés. C'est une preuve supplémentaire, selon vous, du peu de crédit qu'il faut accorder aux résultats ?
Tout à fait, mais de toute façon, le Tribunal suprême de justice a déjà, selon lui, fait un audit des bureaux des votes et des procès-verbaux de l'élection, et donc a confirmé de son côté le résultat de l'élection. Et donc, en fait, selon le gouvernement Maduro, cette histoire est close. En fait, et c'est ça qui est particulier, c'est que si vous voulez, hier, on a annoncé un remaniement du gouvernement Maduro. Désormais, Maduro, en fait, annonce des élections, annonce un remaniement, il gouverne, en fait, tout simplement, il avance. Et du coup, toute cette discussion sur la technique, en fait, qui nous permet, en effet, d'avoir des doutes forts, voire des preuves fortes, en fait, de fraude à l'élection, en fait, tombe sur des personnes qui ne sont pas capables d'écouter ça, et tombe aussi sur une population qui n'arrive plus à avoir les moyens nécessaires pour se battre pour une lutte démocratique.
La qualité se dégrade de plus en plus. On va être obligé d'interrompre cet entretien. Merci beaucoup, Yoriti Bracho, d'avoir accepté l'invitation des RFI. Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférence en sciences politiques à l'Université d'Avignon, également spécialiste du Venezuela. Un entretien que vous retrouvez évidemment à l'écrit et en audio sur notre site RFI.fr, rubrique le journal d'Haïti et des Amériques.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
À Port-au-Prince, où il est 9h23. Bonjour Marine Le Bègue.
Bonjour.
Vous avez feuilleté la presse haïtienne et dans tous les journaux, on parle de cette opération menée conjointement par la police nationale du pays, les forces armées et un contingent de policiers kényans dans le centre-ville de Port-au-Prince et au sud de Delma.
Et elle n'est pas passée inaperçue. Les habitants ont entendu des détonations, rapporte le Nouvelliste. Ils ont vu débarquer une dizaine de véhicules blindés, 15 exactement selon le National, qui rapporte des affrontements violents, notamment dans les quartiers de Bel Air et Solino. Bilan, plusieurs morts du côté des groupes armés, annonce le Nouvelliste, et 3 policiers blessés, dont l'état de santé reste stable, selon la police nationale haïtienne.
Et si cette opération conjointe est une première, d'après le Nouvelliste, ce n'est sûrement pas la dernière.
Ouais Stéphane, le Premier ministre Gary Conille, qui dit avoir supervisé à distance les interventions des forces de sécurité, l'a lui-même assuré au quotidien haïtien. Il y en aura d'autres, car l'objectif, c'est bien de reprendre des mains des gangs chaque maison, chaque quartier et chaque ville du pays. Alter Press rappelle de son côté que cette intervention intervient juste après une nouvelle livraison de matériel en Haïti, et notamment des véhicules blindés, pour lutter contre les gangs.
Et la presse haïtienne revient aussi, Marine, sur ce scandale de corruption au sein du Conseil présidentiel de transition.
Et Stéphane, les 3 membres du Conseil visés par ce scandale ont été auditionnés dans le cadre d'une enquête pour sollicitation de pots de vin. Nous apprend le Nouvelliste, enquête menée par l'unité de lutte contre la corruption. Et véritable rebondissement, annonce Gazette Haïti, 2 des 3 hommes ont décidé volontairement de répondre aux questions des enquêteurs. On le rappelle, le président du conseil d'administration de la BNC, la Banque Nationale de Crédit, accuse les 3 conseillers de lui avoir réclamé 100 millions de gourdes, l'équivalent de presque 700 000 euros, s'il voulait conserver son poste. Malgré un démenti ferme, le scandale a provoqué un profond malaise au sein du conseil présidentiel de transition, écrit le Nouvelliste.
On part aux États-Unis, Marine Le Pen, puisque la presse se replonge dans les déboires judiciaires de Donald Trump.
Ouais, les affaires fédérales de Donald Trump reprennent vie, écrit le New York Times. Lundi, d'abord, le procureur spécial Jack Smith a fait appel d'une décision de justice prise le mois dernier dans le dossier des documents classifiés. Il a demandé à une cour d'appel fédérale de casser la décision de première instance annulant les poursuites contre l'ex-président. Affaire relancée donc. Puis, à peine 24 heures plus tard, le même procureur spécial a ressuscité le dossier des résultats de l'élection de 2020 que Donald Trump a tenté d'inverser. Tout avait été suspendu le mois dernier après une décision de la Cour suprême sur l'immunité des présidents. Qu'à cela ne tienne, le procureur Jack Smith a supprimé les parties de l'acte d'accusation qui pouvaient être en désaccord avec la décision de la plus haute juridiction, explique le Washington Post. Mais tout ça n'a pas l'air d'arranger Donald Trump, qui dénonce une nouvelle fois une chasse aux sorcières et une tentative d'interférence avec l'élection présidentielle de novembre.
Toute la presse américaine et la presse haïtienne avec Marine Le Beg. Merci beaucoup Marine.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec nos confrères de la Première à la Une, un mois après l'incendie qui a totalement détruit le squat du Mont Baduel, les services de la mairie de Cayenne et de la collectivité territoriale de Guyane se sont rendus hier sur les lieux du sinistre Bonaferrand.
L'occasion pour la maire de Cayenne, Sandra Trochimara, et le président de la CTG de s'interroger à haute voix sur l'aménagement futur de l'ex-favela et donc sur le déplacement et le relogement des quelques personnes qui habitent encore sur le site. Écoutez Gabriel Serville au micro de Marine Jabourek.
Nous allons continuer l'opération que nous avons déjà entamée depuis quelques temps pour inciter les gens à partir. S'il faut utiliser le concours de la force publique, on le fera. Mais vous savez qu'en même temps, il y a beaucoup d'humanité dans notre fonctionnement. Et c'est la raison pour laquelle j'ai encore écrit au président de la République pour lui demander de déclencher ce plan Orsec hébergement. Il faut absolument que la nation et que l'Union européenne viennent au secours de la Guyane pour pouvoir héberger ces personnes dans des conditions différentes. Donc il va falloir simplement assurer une bonne coordination de nos travaux pour que la partie qui est encore habitée puisse être évacuée, de sorte que ça permette à la CTG d'engager le plus rapidement possible les travaux d'aménagement de ce site.
Ils avaient déjà lancé un cri d'alarme il y a à peine quelques jours. Les pêcheurs du Carbet, sur la côte nord-ouest de la Martinique, ont une nouvelle fois été victimes de vols. Matériel, moteur et même bateau, tout est dérobé et parfois incendié. Écoutez ce témoignage recueilli par Céline Chalonneau.
De la nuit de dimanche à lundi, ils ont volé le moteur de mon frère et un copain à mon frère. Et ils sont partis avec le bateau de M. Griffith Joël. Et puis ensuite, il y a des collègues qui l'ont appelé pour dire que Joël, il y a ton bateau qui brûle à fond capot. Effectivement, les voleurs sont partis avec le bateau en disant pour reprendre le moteur de M. Griffith. Ils n'ont pas eu le temps de démonter le moteur. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. S'il y a un truc de feu qui s'est passé, ils n'ont pas réussi à démonter le moteur de M. Griffith. Ils ont mis du feu dans l'embarcation de l'aïeul de M. Griffith. Et il faut faire quelque chose pour les marins pêcheurs au Carbet, parce que ce n'est pas d'aujourd'hui que les gens viennent voler les moteurs au Carbet. Parce qu'il y a une année de ça, ils ont volé au moins 4 moteurs là-bas. Ils ont volé un moteur à mon frère, 60 chevaux. pareil, Yamaha tout neuf. Le moteur avait 3 mois. Ils ont volé le moteur de mon frère. Ils ont repris le moteur de mon frère. Quoi. À un moment, ça va péter, quoi.
Pardon, bon après-midi Stéphane, oh là. À demain.
Mais oui, remettez-vous Benoît Ferrand, on vous retrouve demain en pleine forme, c'était le journal des Outre-mer avec nos confrères de La Première et donc avec vous Benoît Ferrand, merci à vous. C'est ainsi que se referme RFI Midi et ce journal d'Haïti et des Amériques. Merci à vous de nous avoir suivis, merci de votre fidélité. À la réalisation Vincent Biteau, à la rédaction en chef Véronique Rigolet, merci à tous les deux. On se retrouve demain pour une nouvelle édition d'RFI Midi, 11h30 temps universel. Et puis je vous rappelle ce rendez-vous ce soir, 18h temps universel, 20h heure de Paris. La grande cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques à vivre également sur notre site RFI.fr. A demain sur RFI.
Vivez les Jeux Paralympiques d'été 2024 avec RFI.
Où que vous soyez dans le monde, toutes les équipes et rédactions de RFI et RFI.fr vous invitent à cette grande fête universelle du sport. Ce mercredi à partir de 18h TU, la radio mondiale se mobilise pour vous faire vivre la cérémonie d'ouverture à travers une programmation et un dispositif exceptionnel.
RFI, radio officielle des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024, au cœur de l'événement jusqu'au 8 septembre.